Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce que
c'est. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre la fréquence de la paix Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikayi, a fermé solennellement l'année académique 2016-2017 en RDC le samedi 30 juillet dernier. À l'ouverture, l'année académique était placée sous les signes de l'excellence, la bonne gouvernance et la pertinence des enseignements. Ceci devait être atteint par l'application de la loi cadre et la construction d'infrastructures de qualité, l'appui à la recherche ainsi que l'amélioration des conditions de travail du corps académique et la création des universités orientées vers les besoins de la société. Quel regard portez-vous sur l'année académique 2016-2017 qui vient de s'achever? 081-890-63-80 et 09-97-06-49-69, ce sont là nos deux numéros de téléphone si vous voulez intervenir en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Paul Badianyama est à la mise en onde de ce programme réalisé, coordonné par J.R. Lungembo et Pierrot Elamenji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamenji.
Nous faisons le point avec vous sur le déroulement de l'année académique 2016-2017. D'un moment à l'autre, nous serons dans ce studio avec M. Steve Mbikayi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous êtes nombreux à avoir commenté ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs et vous êtes aussi nombreux à vous être inscrits pour intervenir en direct. Alain, merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Bonjour Alain. Alain, vous êtes avec nous. Bonjour. Adrien, c'est plutôt Adrien qui est avec nous à Kinshasa. Adrien, bonjour.
Oui. Bonjour à l'excellence, monsieur le ministre, qui est l'invité du jour.
Voilà, on vous écoute, Adrien.
Je félicite d'abord cette année académique. Nous avons tous suivi la fermeture de l'année académique dernière et, sous l'impulsion de son excellence, monsieur le ministre. Et mon intervention va être plus focalisée sur les objectifs que l'excellence s'était fixés et les orientations qu'il avait données, donc les objectifs qu'on devrait accomplir pour cette année académique. Alors, à suivre le sujet, il y a eu notamment l'excellence, la bonne gouvernance, la recherche. Alors, la première question que je m'étais posée lors de la clôture de l'année académique, j'aurais estimé que l'excellence puisse d'abord commencer par évaluer par rapport aux assignations qui s'étaient données, quel a été le niveau d'accomplissement de ces objectifs, quelles sont les actions concrètes qui ont été posées dans le secteur et quels ont été les résultats, n'est-ce pas, même à mi-parcours que donc le secteur avait produit. Alors, quand j'ai commencé à faire l'analyse en ce qui concerne d'abord l'excellence, nous sommes tous unanimes qu'il y a un certain nombre de rapports qui ont été publiés par des organisations dans le secteur qui avaient classé certaines universités en Afrique, mais par pur malheur, nous avons trouvé qu'il n'y avait aucune université, même la grande université de Kinshasa n'avait pas été alignée. Alors la question est de savoir est-ce que le niveau d'excellence avait été atteint. Alors le deuxième secteur, c'était au niveau de la gouvernance. Ce qui est vrai, c'est que la plupart des professeurs qui donnent cours dans des auditoires, ce sont des cadres, ils occupent un certain nombre de fonctions. Nous avons trouvé à des certaines manifestations les bureaux de certains professeurs caillassés parce que les étudiants s'étaient rendus compte que ce que les enseignants étaient en train de donner était presque contraire à leur comportement. Je prends juste un exemple dans le secteur. Vous êtes par exemple dans la faculté des droits, en premier gradué, il y a le cours de droit constitutionnel. Vous trouvez d'une part dans la division A, c'est un professeur qui donne, et dans la division B, c'est un autre professeur qui donne. Et lorsque vous assistez à tous ces deux professeurs, vous allez vous rendre compte que, au lieu que les enseignants se focalisent sur la science, mais vous allez directement vous rendre compte qu'ils donnent plus n'est-ce pas, leur opinion politique au lieu de donner la science. Ça, c'est pour ce qui concerne le deuxième aspect. Alors, le troisième aspect qui est de recherche ainsi que de la technologie, là encore, la question se pose. Parce que nous nous rendons compte que dans notre pays, nous avons plusieurs universités, mais qu'à la fin, les étudiants sont vraiment presque incapables de pouvoir innover. Parce que l'université se veut un lieu de recherche qui est différent d'un institut supérieur. Mais malheureusement, lorsque un étudiant sort de l'université, il devient un éternel demandeur d'emploi. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'il existe une politique, n'est-ce pas, dans le secteur des recherches, ainsi qu'une politique d'accompagnement des étudiants, parce qu'il y a certains lauréats qui sont tellement compétents, mais lorsqu'ils terminent leurs études, ils sont abandonnés, ce qui fait que même s'ils avaient des projections dans leur vie, mais ça s'arrête parce qu'ils n'ont plus la politique de leurs moyens.
Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Vous avez regroupé, n'est-ce pas, votre intervention en deux. Vous avez estimé que la qualité de l'excellence, le problème de l'excellence, il se pose le problème aujourd'hui d'accompagnement des étudiants, ceux qui sont intelligents, ils ne sont pas accompagnés. Il y a cette question de l'innovation au niveau de l'université. Mais d'un côté, vous avez dans la gouvernance évoqué la question des opinions politiques des professeurs, par exemple dans des facultés comme faculté de droit, leurs opinions politiques avec les cours qui doivent être donnés. Voilà autant de questions, mais vous auriez souhaité voir le ministre évoquer et en fait présenter les actions concrètes qui ont été menées par rapport à ces deux priorités. Merci beaucoup, Adrien. Nous restons à Kinshasa avec vous, Alain. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Et vous inquiétez, vous dites que 90% d'étudiants vont en deuxième session. Pour vous, on ne peut pas dire qu'on a atteint vraiment le niveau de l'excellence souhaitée.
Effectivement, lorsqu'on dit qu'on a clôturé l'année académique, je me dis que c'est tout simplement pour respecter les exigences protocolaires. Mais en réalité, l'année continue parce que nous savons que lorsqu'il y a plus de 90% des étudiants qui vont en deuxième session, ce qui sous-entend que la majorité des étudiants ne sont pas passés en première session. Donc, quelque part, tout ce que nous faisons, nous le faisons tout simplement pour nous conformer à certaines exigences, mais sans tenir compte de la finalité de l'action. Nous prenons en termes de produits qui sont mis sur le marché. Vous allez vous rendre compte, même l'État lui-même, qui est le producteur, n'arrive pas à consommer son propre produit. La majorité des étudiants qui terminent leurs études ne sont pas directement engagés par l'État, on leur exige 5 ans d'expérience et on doute même de leur capacité, ce qui sous-entend que quelque part, l'État connaît ou reconnaît qu'il y a une baisse en termes de renseignement. Et lorsque le ministre se fixe des objectifs, naturellement, avant de dire que c'est une réussite ou il a atteint l'objectif, comme l'a dit mon prédécesseur, il doit se rassurer d'avoir que lui-même s'est assigné. Quelle est la finalité de l'enseignement ? Du processus enseignement. C'est d'avoir des gens qui seront en mesure de transformer leur environnement. Mais malheureusement, on se rend compte que l'enseignement ici se base que sur la dimension cognitive où on donne des informations sur certaines réalités. Mais est-ce que nous pouvons faire le rapprochement entre notre connaissance en tant que des hommes formés et notre capacité à résoudre le problème sociétal? Je prends les critères ou les objectifs fixés par le ministère. On parle en termes d'infrastructures. Quelle est la demande aujourd'hui en termes d'infrastructures? Qu'est-ce qui a été réalisé par institution? Là, on saura si cet objectif est atteint. On prend en termes de recherche. On dit que nous, on va stimuler la recherche, on va soutenir la recherche. En termes de budget, quelle est la quantité prévue pour la recherche? Par département et par filière. Comme ça, on saura voir si effectivement les objectifs sont atteints. Si on prend en termes la qualité de l'enseignement, nous autres, nous l'avons fait, nous avons eu l'opportunité de faire une université pédagogique, parce que j'ai réussi à terminer à l'université pédagogique nationale. Mais nous savons que dans l'enseignement, la question de départ est quel type d'homme voulons-nous former? Nous voulons avoir quel type d'étudiants, parce que nous savons que dans l'enseignement au niveau universitaire, il y a deux types de recherche, la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Dans la recherche appliquée, ce qui se fait au niveau des instituts supérieurs. C'est justement pour permettre aux gens d'entrer directement dans l'activité. Mais la recherche fondamentale, c'est plus basé sur la recherche pour chercher à trouver de modèles ou à trouver de solutions, pas seulement en termes d'application, mais aussi en termes de conception. Mais est-ce que la plupart de nos étudiants aujourd'hui sont en mesure de faire cette recherche-là, qui sort des universités? Parce que nous constatons qu'il y a un problème même en termes de l'élaboration de textes de mémoire. On se rend compte que c'est pratiquement la même chose. Mais les questions épineuses de l'État ou de la gouvernance ne sont pas traitées dans la plupart des cas. Si vous prenez au niveau de l'économie, vous trouvez quelqu'un qui fait l'économie rurale, mais qui fait une étude sur une situation qui existe, un produit qui existe sur le marché. C'est-à-dire qu'il se fait directement un marketeur alors qu'il est dans la recherche fondamentale. Donc quelque part, je me dis, oui, le ministre doit revoir la politique d'enseignement. Il ne veut pas continuer dans la routine, tout simplement pour se conformer au protocole. Nous voulons avoir un enseignement qui arrive à transformer les structures. C'est ça la finalité de l'enseignement.
Voilà, merci.
Le produit congolais n'est ni consommé sur le plan interne parce que la plupart des entreprises refusent d'avoir les étudiants qui sortent sans avoir une expérience de 5 ans.
Merci beaucoup.
International, les diplômes ne sont pas homologués. Donc, quelquefois, il y a un problème. On doit éviter de faire du sensationnel. Nous avons besoin de trouver des solutions durables, passant par la formation.
Voilà, merci beaucoup Alain. Il faut éviter de faire du sensationnel. Il faut des solutions durables. On pourra voir d'un moment à l'autre avec le ministre des actions concrètes. Vous avez souhaité que ces actions soient focalisées plus sur la qualité de l'enseignement, les objectifs de l'enseignement. Comment l'enseignement doit-il répondre aux besoins réels? Rappelons que dans les priorités qui ont été finies, qui ont été plutôt définies par le ministère, il y avait cette question d'avoir l'université qui réponde aux besoins réels de la société. Merci beaucoup. Maître Gervais, vous êtes à Calémy. Bonjour et bienvenue. Comment ça s'est passé l'année académique 2016-2017? Bonjour. Maître Gervais, bonjour. Et voilà, dans le petit souci, Maître Gervais, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, on pourra revenir à Calémy. D'un moment à l'autre, on retourne ici à Kinshasa avec vous, ingénieur Valérie. Nous faisons le point sur l'année 2016-2017 par rapport aux priorités que le ministre s'était fixées. Quel est votre point de vue?
Oui, merci Pierrot, bonjour à tout le monde et aussi à son Excellence Serge Ndikaï. Bon, de toutes les façons, le bilan est tout à fait mitigé parce que quelque chose est fait et il y a encore autre chose qui reste à faire. Toutefois, ce qui reste à faire est quand même beaucoup plus bouliné. Ce que moi je peux dire, c'est qu'au départ, c'est un défi. C'est tout à fait normal. On lance des projets d'institut. J'ai vu le ministre en bougement, il a été inauguré, l'ISTA, l'IBTP bougement, c'est un débit. Mais seulement, je voudrais que l'on puisse aller vraiment en tenant compte des objectifs d'abord du pays. Vous savez, il est tout important que l'enseignement collabore avec le pays. Ce n'est pas pour rien que l'autorité des tuteurs de l'enseignement est aussi membre du gouvernement. C'est ce que je veux dire par là. Les objectifs des écoles où la création d'écoles doit aussi répondre à un besoin futur de la société. Parce que je l'ai déjà dit une fois, éduquer, former d'une manière générale, instruire, c'est préparer, c'est insérer la personne à la société de demain. Je prends quelques exemples. Vous avez vu que les Belges ont instauré à la Polytechnique de Lubumbashi la géologie qui n'était pas à Kinshasa. C'est parce qu'on savait qu'il y avait la Gécamine à Lubumbashi. Mais moi, par exemple, je vous dirais que au Maniema. Le Maniema, c'est une province minière, mais il n'y a pas la faculté de géologie. Vous comprenez déjà que même quand on a monté l'université, on devrait aussi tenir compte de toutes ces réalités-là. Il y a l'agronomie, c'est bon, c'est une région agricole. Mais lorsque on prépare les enfants, on doit les préparer pour les insérer à la société future. Nous arrivons par exemple au Kassai. Je ne sais pas s'il y a l'agronomie à l'université, mais s'il y a l'agronomie, alors qu'il n'y a pas encore d'instituts, d'instituts agricoles. Vous comprenez que là aussi, ça sera encore une défaillance. Il faudrait même qu'il y ait aussi une jonction entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. On ne peut pas avoir des facultés d'université là où il n'y a pas d'abord d'instituts, d'école supérieure, d'école secondaire, qui ne peuvent pas déficier les éléments dans la faculté. Vous voyez, par exemple, il y a, par exemple, l'ancien premier ministre Mata Tamapon qui a créé l'université au Maniema, où il y a l'électromécanique, mais au Maniema, je n'ai vu aucun institut technique industriel. Vous comprenez que, quelque part, il y a un chevauchement. Alors, s'il faut me concilier encore à ce qu'Alain Bourgeois vient de dire, que je t'ai dit en passant, ça aussi, c'est une évidence. Il faudrait que les étudiants soient beaucoup plus préparés au travail, surtout dans les études supérieures. Hier, nous avons parlé de l'ONATRA. Je vous ai dit que l'ONATRA, l'AFNE, la Régie des eaux, la RVA, toutes ces grandes entreprises, n'étaient pas que des entreprises, mais aussi d'écoles. Aujourd'hui, toutes ces écoles-là professionnelles, ce sont des écoles professionnelles en quelque sorte, parce que ce sont des milieux qui doivent recevoir les stagiaires. Alors, tout ça, ce sont des éléments qui passent dans les dossiers du ministre. Je sais qu'il est entreprenant. Il cherche même des partenariats par-ci, par-là, pour qu'on vienne construire des bâtiments. Mais là où je voudrais contribuer, c'est au niveau de la relation entre les services de la supérieure.
Oui, oui, là, on a des petits soucis, on a des petits soucis des lignes avec votre ligne. Des petits soucis avec votre ligne, Valérie. Mais si on vous a suivi, vous avez souhaité qu'il y ait des infrastructures qui répondent, ça c'est vrai. Mais vous avez beaucoup insisté sur l'adaptation des filières organisées avec les besoins réels qui se posent dans le milieu, dans le pays, pour que l'université, comme le ministre l'avait dit, réponde aux vrais besoins de la société congolaise aujourd'hui. Albert Inguinda, merci beaucoup, Valérie. Marcella, vous êtes à Walikale, vous gardez la ligne, et professeur Ignace Ndala, vous êtes à Kolwezi. Nous avons Albert Inguinda sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Il est à Kananga. Pour l'année académique 2016-2017, on peut saluer le respect du calendrier académique et le fait que les cours se sont normalement donnés sans interruption. De mauvais côté est qu'il n'y a pas amélioration des conditions de travail des enseignants, car on constate un écart criant des salaires des professeurs et celui des chefs des travaux et assistants. Alain Evariste Basanga en Bandaka. Beaucoup reste à faire. De 2012 à 2017, 5 ans, jour pour jour, l'université de Mbandaka a connu 5 recteurs. Les uns sont reprochés de la mauvaise gestion, les autres pour conflit de compétences, voire d'attribution. Outre ça, il y a d'autres griefs. Pour pallier à tous ceux qui précèdent, il faudra que le gouvernement puisse doter cet établissement des professeurs permanents. Qui sont aussi mécanisés en vue d'équilibrer le budget de l'université de Mbandaka, doter l'université d'une bibliothèque moderne, doter l'université des bâtiments qui répondent aux normes architecturales, instituer une commission permanente qui veillera au bon fonctionnement des universités, car le problème c'est à ces niveaux-là. Marcella, vous êtes à Walikale, dans la province du Nord Kivu. Bonjour Marcella.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je suis très content d'être retenu parmi les millions des auditeurs de la radio Capi. Mmh. Le sujet, c'est très bon pour le moment. Et nous sommes dans le cadre que l'enseignement est dans l'excellence, selon que le ministre a dit. C'est un élément très capital pour nous. Nous devons défendre et nous devons donner un élément très clair au ministre. Le ministre, selon ses propos, il a bien dit que l'excellence doit entrer dans l'enseignement supérieur. Et ce que nous voyons maintenant au coin et recoin du territoire national, c'est le contraire. Donc les universités, les institutions sont toujours oubliées. Les enseignants enseignent dans un cas qui n'est pas convenable. Vous voyez même des universités qui travaillent dans un milieu où il n'y a pas de réseau de communication. Il n'y a pas même l'Internet. Les étudiants ne sont pas munis de leurs recherches convenables. C'est là aussi. Le ministre avait dit à l'ouverture qu'il va appuyer les étudiants aux bourses. Alors, on ne sait pas, même à la fermeture, il n'a pas dit ça. Peut-être, si par mégarde, je n'ai pas suivi la totalité de ce qu'il a dit. Mais on regrette parce que il n'y a pas ce que le ministre a dit selon les bourses des étudiants. Et vous allez constater que j'ai un ami qui a obtenu sa bourse d'études de l'année passée, mais il continue toujours à souffrir. Donc, bourse d'études déjà détournée. On ne sait pas si nous allons dans quelle dans quel pays.
Alors cette question, je crois, depuis il y a quelques années, hein, on n'a plus octroyé la bourse aux étudiants. Je crois bien du temps du gouvernement Gizenga. Une fois, je me rappelle encore bien. Alors vous estimez, Marcela, que la question devait être posée au ministre parce qu'il avait évoqué lors de l'ouverture de l'année 2016-2017. Bon, rappelons quand même que le ministre actuel a pu rejoindre le gouvernement en cours parce que cela c'est une décision du gouvernement. Qu'on avait évoqué la question de la bourse, on pourra revenir là-dessus. Merci beaucoup, Marcela. Mais vous avez aussi évoqué les conditions dans lesquelles les étudiants aujourd'hui suivent les cours, que ça soit surtout en province, l'accès à l'internet, l'accès à la bibliothèque, comme ça a été évoqué par notre ami de l'université de Mandaka tout à l'heure. Professeur Ignace Ndala, vous êtes à Kolwezi. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour. Merci pour l'invitation. Je voudrais juste ici rappeler que nous allons peut-être aborder ce thème en nous référant à l'instruction 018 que le ministre avait lancée lors de l'ouverture de l'année académique comme un cadre de référence. Disons que dans cette instruction, il y a eu entre autres le souci de la bonne gouvernance et d'excellence des universités, qu'elle devait passer par, entre autres, laissez-moi répéter cela, les éléments en rapport avec la vente des syllabus, par exemple, le monnayage de syllabus hein, ou de conditions d'accès aux interrogations et autres travaux. Mais il y avait aussi le problème de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle des cellules d'assurance qualité. Donc, c'était mis dans le contexte de la lutte contre les tares, les antivaleurs dans les universités. C'est là que nous devons nous poser la question de savoir si aujourd'hui, à la fin de cette année, cela a été observé. Il s'est fait qu'il y a eu des efforts à gauche, à droite, mais cela a continué quelque part. De la vie des observateurs que nous sommes, on a vu que le problème des syllabus, le problème des frais exagérés à gauche, à droite, ont continué à poser des problèmes. Il faut aussi reconnaître que quand on parle de l'excellence, cela rime avec l'amélioration des conditions de travail. Beaucoup d'interlocuteurs et d'intervenants ont évoqué cet aspect. C'est que tant qu'on ne pensera pas à améliorer les conditions de travail, aussi bien du personnel que des étudiants, je crois que le problème de l'excellence va continuer à se poser. Disons que nous avons devant notre tableau un défi qui se pose, des grands défis. Il y a d'abord le système dans lequel nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas juste là rangés sur le système international de LMD. Donc ça pose des problèmes d'équivalence des diplômes quand nos étudiants partent à l'extérieur et rencontrent de difficultés. Il faut aussi revenir sur la mission même de l'université. En fait, l'université se veut le cadre de recherche, le cadre de l'enseignement, mais aussi des solutions aux problèmes de société. Allô?
Oui, allez-y, professeur.
Oui, le problème de société. C'est là que se pose le problème d'adéquation de l'enseignement même que nous sommes en train de donner, le programme que nous sommes en train de donner par rapport aux besoins de notre société. C'est qu'aujourd'hui, il y a des filières qui sont en train d'être créées, mais qui n'ont pas de pertinence ou d'intérêt pratique face à la réalité du pays. Il y a aussi le problème de la représentation même du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire au niveau de province. J'ai eu à le dire une fois. Il me semble que ce ministère n'est pas aussi bien représenté. Les ministres de l'enseignement dans les provinces parlent beaucoup plus ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire. Ils n'ont pas la même mise sur ce domaine-là. Donc c'est aussi un problème qu'il faudrait arriver à revoir. Oui. Mais il y a l'appui du gouvernement dans les initiatives des universités. Il y a toujours une certaine discrimination dans notre pays. On parle en termes d'universités publiques, universités privées agréées, universités privées, tout cela, mais vous allez voir que parce que cela entre dans le secteur de l'éducation, un secteur très important, donc il faudrait peut-être qu'on pense même à ne plus que soutenir ces initiatives-là pour qu'on puisse bien le contrôler.
Merci.
Voilà à peu près comment moi je suis en train de voir les choses.
Merci beaucoup, professeur Ignace Ndala. Vous êtes à Kolwezi. Vous avez évoqué les questions clés. Et d'ailleurs, la question des ventes de syllabus, tout à l'heure, j'ai vu beaucoup d'internautes revenir là-dessus. Ils estiment que les frais exagérés, cela n'a pas beaucoup évolué, surtout cette question-là. Mais il y a beaucoup d'autres choses par rapport à notre notre système, le programme, l'équilibrer avec l'adaptation au système LMD. On a fait des débats plusieurs fois autour de ça, afin d'avoir des diplômes homologués et acceptés à l'extérieur. Le programme, toutes ces questions doivent être abordées d'une manière globale, en tenant compte, bien sûr, l'instruction 018 sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Peter Jean-Pierre qui est à Moïka. L'année académique vient de s'achever en bonté, mais les bilans est mitigé dans le fait que dans presque beaucoup d'universités et institutions supérieures, rien de nouveauté et le processus de recrutement n'est pas respecté. Il suffit d'avoir le diplôme de licence et être frère au secrétaire général académique, au DG ou au secrétaire général administratif. Avec n'importe quel pourcentage, vous êtes retenu assistant. Deo Graciantita qui est en Boujimaï. Je pense que cette année qui vient de s'écouler présente un bilan mitigé par le fait qu'il y ait certains objectifs que le ministère s'était fixés n'ont pas été atteints. La vente des syllabus continue à battre son record moyennant une réussite. L'augmentation des frais connexes suite à l'inflation de taux d'échange. Notre ami Moïse Mogisa qui est à Bounia, nous étudiants de l'université de Bounia, nous avons souffert durant cette année académique accompagnée de plusieurs grèves suite au détournement des fonds de l'université et du changement des comités de gestion des universités qui se réveillent un bon matin pour dire que la concession de l'université abrite appartient à d'autres personnes. Voilà autant de problèmes qui se sont posés pendant cette année. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct 081 890 63 80 et 09 97 06 49 69.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Amunazo et Jean-Didier Ogobani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Félicien, merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Oui, moi je dis que nous, les Congolais, nous aimons beaucoup la distraction et nous n'avons pas vraiment des choses sérieuses à faire et nous voulons nous distraire avec des thèmes comme excellence, ceci, cela, les étudiants, l'année académique qui s'est bien terminée en beauté. Mais en réalité, tout le monde sait qu'il n'y a rien dans tout ce que nous disons là. Et quand nous parlons de l'année académique qui s'est terminée en beauté, quand nous parlons de l'excellence, est-ce que nous tenons compte que dans des conditions telles de vie et de travail, des étudiants, même des professeurs, on ne peut pas parler de thème excellence? Comment c'est, on va arriver à l'excellence quand au départ déjà les bases qui sont là ne sont pas des bases qui peuvent vous amener à ces résultats? Comment vivait l'étudiant d'hier qui est aujourd'hui ministre, qui est aujourd'hui professeur? C'est dans ces conditions-là qu'il travaille. Et les professeurs aujourd'hui, chaque jour, grève. Dans ces conditions de grève, de réclamer toujours de l'argent et de courir à gauche, à droite pour aller vendre des syllabus. Et c'est là où on va trouver l'excellence. Non, nous devons faire attention au mot. Il ne faudra pas qu'on s'amuse de cette façon-là. Et moi, je pense que nous devions au contraire être très, très regardants sur le système de l'enseignement parce que un savant a dit que si vous voulez détruire un pays, il ne faut pas lui faire la guerre, mais détruire seulement le système de l'enseignement, au bout de quelques 20 ans, c'est fini. Vous n'aurez plus rien dans ce pays. Et installer la corruption et vous verrez que les gens deviendront vraiment malléables. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous savons déjà que dans notre enseignement, nous ne pouvons pas avoir quelque chose de bon, étant donné qu'il n'y a pas de modèle déjà et parmi les professeurs, les ministres et tout ça, que les étudiants vont suivre. Qu'est-ce qu'un étudiant, qu'est-ce qu'est l'excellence s'il n'y a pas, comme on le dit, gens sans conscience et ruine de l'âme? S'il n'y a pas l'éthique, s'il n'y a pas la morale, s'il n'y a pas la probité morale, s'il n'y a pas le patriotisme et tout ça, on trouve à l'université des antivaleurs, la corruption, et vous voulez trouver l'excellence là-bas. Tant que nous n'aurons pas de modèle, et parmi les professeurs, les ministres, et nous tous qui sommes déjà dans la vie active, donc vous ne pouvez rien attendre des étudiants parce que nous allons leur transmettre nos antivaleurs.
Merci et beaucoup,
les étudiants qui sont en sciences politiques.
Oui, allez-y.
L'étudiant qui est en sciences politiques, il fera la même chose comme le ministre lui-même. Il va se promener, et il va se battre pour un état de droit, et on va se promener avec les figés de Tshisekedi, puis après, on trahit, et on va dans ce gouvernement-là, qui n'a rien à voir avec l'état de droit, que le Congo recherche. Et demain, les juristes qui sortiront de là, il fera comme les magistrats de la Cour suprême et des autres, parquets ou, systèmes judiciaires. Et la corruption et tout ce que vous voulez, ils vont interpréter les lois en fonction de leurs besoins, de leurs intérêts. Et vous vous attendez que dans ce système-là, nous puissions avoir l'université d'excellence. Non, battons-nous pour l'essentiel et devenons sérieux et consciencieux et changeons les choses une fois pour toutes pour l'avenir de nos enfants.
Merci beaucoup Félicien. Vous estimez que l'étudiant congolais n'a pas de modèle. Ça sera difficile de pouvoir atteindre l'objectif de l'excellence comme voulu par le ministre en début de l'année dans les conditions où l'étudiant n'a pas de repères. Vous avez aussi évoqué les conditions de vie difficiles dans lesquelles évoluent et les enseignants et les étudiants. Cela ne peut pas apporter aujourd'hui l'enseignement de qualité. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kinshasa. Je crois bien nous avons le ministre en ligne, Monsieur Steve Mbikayi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez clôturé l'année académique 2016-2017. Est-ce qu'on peut avoir en grande ligne les éléments que vous avez par rapport aux objectifs qui s'étaient que le ministère s'était fixé en début d'année et quelques actions qui ont été menées pendant cette année académique en grande ligne?
Oui, bon, il faut d'abord souligner que j'ai compris au ministère au mois de décembre. À partir du mois de février, j'avais réglementé la vente de syllabus. J'avais fixé les prix, n'est-ce pas, qui ne devaient pas dépasser 15 dollars pour les syllabus les plus volumineux. Ça a été respecté à plusieurs endroits, mais j'attendais le rapport pour savoir où ça n'a pas été respecté. Et là, je suis en train d'ailleurs d'aller vers la suppression totale de la vente de syllabus cette année, parce que nous allons, n'est-ce pas, avoir des plus serveurs qui permettraient à ce que l'étudiant ait accès à des millions de livres, même sans Internet, même à l'intérieur. À part ça, nous avons parlé du projet de construction. C'est en cours. C'est en cours parce qu'il fallait respecter la procédure de passant de marché. Je suis en pourparlers avec les partenaires privés étrangers qui vont devoir nous aider à construire de nouvelles infrastructures à Kinshasa comme à l'intérieur. Nous avons le problème d'arrimage et aussi CLMD, comme vous en avez parlé. Dans le cadre du programme PSU, nous sommes en train déjà de signer des contrats de performance avec différentes facultés et puis différentes supérieures pour que cette année qui va commencer, nous puissions déjà démarrer à doter l'établissement des laboratoires, des machines et autres, parce que nous avons un programme à valeur mondiale à l'initiative du gouvernement qui marche très bien. Donc il y a eu tellement, j'avais promis aussi de pouvoir maîtriser ce type d'étudiants par la carte biométrique qu'on donne à tous les étudiants. On a commencé déjà à la délivrer au niveau de Kinshasa, à l'UNIPIN par exemple, on a commencé, ça et autres, ça va se poursuivre. Nous n'avions pas les problèmes de bibliothèques qui sont vétustes, qui n'ont pas assez de manuels. Et là, j'ai dit que nous sommes en train de trouver la solution. Nous allons aussi aller vers l'interconnexion qui est déjà en cours des universités, centres de recherche. Voilà, je crois qu'il y a eu quand même assez de choses qu'on a pu réaliser, mais d'autres pas encore, parce que le pays est tellement vaste. Quelqu'un a parlé de cellule d'assurance qualité. Et là, j'ai eu la réunion déjà avec les seuls établissements pour exiger qu'il y ait dans chaque établissement une cellule d'assurance qualité, parce que nous avons déjà une coordination nationale et bientôt il y a un décret qui va sortir pour l'agence d'assurance qualité pour que nous puissions d'abord nous évaluer à l'interne avant qu'on soit évalué à l'international pour être compétitif. parce qu'on voudrait bien figurer aussi parmi les grandes universités africaines. Voilà.
Mais on se rappelle que dans les priorités, il y avait aussi cette question de, des universités non viables. Hein. D'abord, la question des extensions et des universités privées et à travers le pays, mais la question aussi des universités non viables qui devaient être fermées compte tenu de l'absence des qualités exactement. Quelles sont les actions qui ont été menées pendant cette année 2016-2017 autour de cette question?
D'abord, nous ne tolérons plus les extensions parce qu'il y a eu assez d'aventures là-dessus. Et il faut fermer des établissements non viables. Comme vous savez, j'ai commencé une tournée. J'ai été dans la province de la Tchopo, j'ai été à Lualaba, j'ai été là au Katanga, j'ai viens du Kasaï, j'ai sillonné à Kinshasa. C'est pour me rendre compte de ce qu'il y a comme établissement non viable. Et bientôt, avant, n'est-ce pas, la rentrée académique, il y aura une arrêté que je vais signer pour fermer beaucoup de ce qu'on appelle université, puis institut supérieur. J'ai trouvé, par exemple, quelque part, dans le Kasaï, une université qu'on appelle scientifique, mais qui n'a qu'une seule salle avec un petit tableau, il n'y a rien du tout dedans à l'intérieur. Il y en a comme ça à travers la République qu'on va fermer progressivement. Donc, c'est bien en cours. Il fallait pas fermer pendant que les étudiants étaient encore en train d'étudier. J'ai attendu le faire maintenant pendant les vacances.
Mais on se rappellera que les initiatives pour fermer les universités non viables ont été prises depuis plusieurs fois et plusieurs ministres ont pu buter à cette difficulté que ces universités qui appartiennent soit aux hommes politiques, aux députés, aux sénateurs, aux hommes politiques qui sont à Kinshasa, qui ont ouvert les universités à travers le pays dans des villages. On a vu plusieurs fois le ministre prendre la décision, les hommes politiques à partir de Kinshasa se battre pour que l'université ne soit pas fermée. Alors quelles sont les mesures particulières que vous pourriez prendre pour faire face à cette situation qui est réelle chaque fois?
Oui, nous avons un ministère très sensible. Pour y réussir, il faut vraiment avoir, il faut savoir résister, parce que chaque politicien, chaque député voudrait avoir son établissement. Ça devient des outils pour la campagne. Mais vous allez voir que ce que nous allons fermer, nous, en tout cas, on ne va pas le rouvrir, à moins que l'établissement arrive à pouvoir nous démontrer que tout ce qui a prévu la fermeture a changé. Et puis, depuis que je suis là, ce n'est pas tellement arrêté pour de nouvelles institutions, parce que il y en a plein de non viables. Nous sommes, semble-t-il, troisième pays dans le monde à avoir autant d'établissements, mais dans beaucoup de cas qui sont pas viables. J'ai trouvé à Lubumbashi une université où il y a l'économie, il y a le droit, il y a la médecine, mais on a à peine, c'est pas moi, 5 ou 6 locaux. Les gens étudient pour 2 heures par jour, 3 heures par jour. Et puis quand on termine, on a un diplôme équivalent à celui qui a fini, par exemple, à l'UNICI, à l'UNICI, à l'UNICI. C'est pas acceptable. Donc, nous allons devoir fermer cet établissement, mais nous savons qu'il y, il y aura trop de pression, mais on va quand même on va y résister.
Voilà. Il y a l'autre question avant qu'on écoute encore les auditeurs, qui a été évoquée par les auditeurs en début d'émission, c'est la question de la gouvernance des universités, des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, parce que cela a été aussi parmi les priorités, même au niveau de l'instruction 018. La question a été évoquée, martelée sur l'amélioration de la gouvernance. Où en est-on aujourd'hui pour cette année académique qui s'est achevée?
Oui, depuis récemment, nous sommes en train de faire le suivi et le contrôle dans beaucoup d'établissements et nous sommes en train de prévoir aussi des sanctions pour des fautifs. Et je crois que on a pris 6 mois pour connaître bien l'environnement, le terrain et d'ici là, vous allez voir qu'il y aura des sanctions positives et négatives qui seront prises à l'encontre ou bien pour ceux qui sont bien comportés.
Voilà,
on
va écouter, on vous garde en ligne, on va écouter Maître Gaston qui est ici à Kinshasa. Maître, merci d'être avec nous et bonjour.
Merci, je salue aussi l'excellence et vous, merci.
Non, on vous écoute Maître, pour l'année 2016-2017.
J'allais d'abord dire que il y a un problème réel que tout le monde devrait retenir, que j'ai pu constater personnellement. C'est au niveau aussi des professeurs. Les professeurs ne s'actualisent pas. On assiste à un phénomène, assistant, chef de travaux, remplace professeur. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui ont tendance à s'actualiser, à adapter leurs notes, hein, leurs syllabus avec l'évolution, qui ont cette fois-ci, qui remplace automatiquement les professeurs. Moi, je pense que les professeurs, non professeurs, doivent vraiment s'actualiser. On assiste à des professeurs, On assiste à des cours où les professeurs, vraiment vous sentez que les professeurs sont en retard, voire par rapport aux étudiants. Et vous pensez vous-même hein, qu'un tel professeur pouvait diriger un travail avec l'apport de l'étudiant. Non, je pense pas. Ils n'ont même pas tendance à demander cela. Je vous pose juste une question. Qu'est-ce que les étudiants ont apporté par rapport à leur recherche cette année? Vous ne trouverez rien de nouveau. Les étudiants n'apportent rien. Mais quand même, il y a quelques têtes qui ne sont même pas majorité, peut-être 5 ou 2%, qui s'adaptent, qui utilisent leurs propres méthodes de recherche. Et vous voyez que non, ils ont vraiment... Mais l'autre aspect, c'est tout excès nu. J'ai dit, c'était pour trouver une université, il faut se battre. Mais actuellement, à n'importe où, vous trouverez les universités. Hein? Les gens imaginent qu'à l'université, c'est facile, on va gagner l'argent, mais ils n'ont pas cette vocation. Alors, on trouve n'importe qui à l'université actuellement. C'est ce qui pose aussi problème en RDC. Mais quand même, je réinsiste qu'il y a des petites têtes, il y a des têtes qui sortent des universités congolaises, mais la majorité, c'est ce qui d'ailleurs véhicule la mauvaise image des universités en RDC. Si on arrivait avec la décision, comme j'ai entendu le ministre parler de fermeture de d'autres institutions qui ne répondent pas aux normes, ce serait une bonne chose, mais aussi insister à ce que les professeurs puissent s'actualiser. Les professeurs ne s'adaptent pas, les professeurs n'actualisent pas leurs notes, ils sont restés archaïques, ils sont restés traditionnels par rapport voir aux étudiants, c'est ce que j'avais à dire. Voilà.
Merci beaucoup, maître Gaston. Vous estimez qu'il y a aussi ces problèmes qui ont été évoqués en début d'année académique, des professeurs qui sont plus peut-être occupés dans les fonctions politiques, ce qui fait que les cours sont entre les mains des assistants de chefs des travaux, mais pour vous, il faut des recherches pour actualiser aussi les notes des cours et la question de la fermeture des institutions non viables. Étienne, vous êtes à Guémena, merci d'être avec nous. Bonjour Étienne. Étienne, vous êtes avec nous, bonjour. Il y a des petits soucis des lignes avec Étienne qui est à Guémena. Junior Massimango. Il dit, quant à moi, l'année est toujours en cours dans d'autres provinces de la RDC, selon le remarque faite, même si on a clôturé officiellement. Mais quand vous avez dans la plupart d'universités 80% d'étudiants qui passent en deuxième session, et l'année est en cours, cette question devait être considérée. Pourquoi beaucoup de gens passent en deuxième session dans les universités? Je crois que le ministre devait mener les enquêtes par rapport à cela. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous. Vous avez suivi notre ami tout à l'heure qui évoque la question des professeurs. Et vous-même, d'ailleurs, vous l'avez déclaré qu'il faut qu'on arrive à augmenter le nombre de professeurs. Y a-t-il des mesures particulières qui ont été prises par rapport à cette question?
Oui, pour la relève académique, je suis d'abord dans une phase d'identification de tous les doctorants, de tous ceux travaux qui doivent prendre leur thèse, de ce fond le troisième cycle, parce que beaucoup n'ont pas de moyens pour le faire. Et je suis en négociation avec des partenaires pour pouvoir leur donner des crédits, c'est pas 3 000 dollars, pour qu'ils accélèrent, parce qu'on a trop peu de professeurs et beaucoup ont vieilli. Et je veux que dans 3-4 ans, nous puissions avoir 10 000 professeurs, par exemple, parce qu'on a beaucoup, d'étudiants. J'ai entendu parler de professeurs archaïques, ben, c'est vrai parce que beaucoup de professeurs ont des notes de cours sur base des livres d'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça change pas. Voilà pourquoi il faut l'accès, n'est-ce pas, à des bibliothèques numériques qui permettraient à ce que les étudiants et les professeurs puissent avoir des ouvrages les plus récents. Et nous sommes sur le dossier. Il y a un autre qui a parlé du fait que l'académie continue ailleurs. J'aimerais qu'on me dise où ça continue, parce que j'avais fait une circulaire où c'était obligatoire de tout faire pour clôturer l'année académique, n'est-ce pas, le 31 juillet. S'il y a une école qui avait des problèmes, elle aurait dû demander une dérogation. J'attends qu'on me dise où est-ce que les étudiants n'ont pas été capables de clôturer l'année. En ce moment, il y aura, à mon avis, quelques sanctions. Et j'en profite pour annoncer que j'ai signé bientôt un arrêté qui crée deux bourses de solidarité nationale pour aider certains étudiants qui ont fait 2 ans, 3 ans, 1 an, qui ne vont pas à l'université faute de moyens. Et cette bourse sera donnée aux étudiants qui vont accepter de pouvoir suivre des filières telles que mathématiques, physique, chimie, latin, des filières qui n'ont plus assez d'étudiants. Et tant que le tuyau ne pourra pas échouer, il va étudier jusqu'à la fin de son cycle, sans payer un rond. Il y aura un test qui va être fait, juste l'adité, et puis on va répartir dans différentes universités.
Alors, parce que vous avez évoqué cette question de la bourse, c'est effectivement, il y a un auditeur de Walikale qui est revenu là-dessus, mais la grande question qui a été posée pour cette année qui vient de s'achever, c'était aussi autour de professeurs avec, on peut dire, avec un programme accumulé, plus dans des cabinets ministériels. Un auditeur l'a évoqué, qui n'ont pas le temps d'être tout le temps à l'université. Les cours sont laissés entre les mains des assistants. On sait tout ce qui se passe autour de cette question. Alors, comment vous aviez prévu des mesures par rapport à ce que le professeur puisse avoir plus le temps des cours au-delà de leurs occupations en termes, par exemple, d'activités politiques ou d'autres activités comme expert?
Oui, c'est l'un des rôles que je vais confier à l'assurance qualité au niveau des établissements pour veiller à ce que les cours soient dispensés par les professeurs. Pas question de venir faire l'introduction et partir laisser les cours aux assistants. Beaucoup font des choses comme ça. Il faut qu'il y ait aussi une gestion capable de faire le suivi et faire rapport au niveau du ministère. Parce que le ministère ne saura pas être partout. Alors, je crois que les gens doivent choisir, soit on est politicien, soit on est professeur. C'est pas normal de pouvoir être professeur, être payé et ne jamais enseigner. En collaboration avec différentes autorités académiques, selon IVP et Petit, mais je peux pas prétendre qu'on peut tout de suite mettre fin à ça dans la mesure où il y a peu de professeurs. Il faut augmenter le nombre de professeurs pour que ceux qui sont politiciens restent en politique et ceux qui enseignent continuent à enseigner.
On va écouter les deux derniers auditeurs, on revient à vous pour la conclusion. Emery, vous êtes à Kananga, bonjour. Emery, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour aux auditeurs. Bonjour Pierre Lemengi.
Oui, vous pourriez-vous arrêter votre radio ou bien votre poste récepteur et puis allez-y rapidement parce que là on n'a que 40 secondes, Emery.
Merci Pierre. Merci, bonjour aussi aux auditeurs de Radio Okapi. Et je dis aussi merci au professeur ministre de l'enseignement supérieur. Mais il y a un problème qui se pose. Il vient de nous dire qu'il a clôturé l'année académique, mais ici à Kananga, l'année est en cours. Kananga ne fait pas partie des provinces qui composent la République démocratique du Congo. Ah, c'est une question de savoir. Mais il y a aussi un problème qui se pose. Ici, par exemple, à Kananga, on fait des campagnes de différentes institutions pour avoir un nombre insuffisant, vraiment, un nombre suffisant plutôt des étudiants. Et quand on fait des campagnes comme ça, il y a aussi des problèmes. Même si vous avez échoué, même si vous n'avez pas payé des frais exigés, des histoires comme ça, est-ce que nous allons atteindre l'excellence? Il y a aussi un problème.
Alors, Emery, quand vous dites que l'année est en cours à Kananga, on sait que la province avait connu des problèmes. Est-ce qu'il y a eu la collation des grades dans les universités? C'était le lundi?
Oui, dans des autres, mais dans des autres, pas encore.
Et les autres, pas encore. Oh, voilà, on pourra revenir là-dessus. Mais vous avez posé la question des campagnes pour l'inscription des étudiants. Et vous estimez que même quand les gens n'ont pas de moyens, ils y vont. Et cela risque de poser un problème sérieux en ce qui concerne la qualité. Claude, vous êtes à Likasi. Bonjour, Claude.
Bonjour. Je salue l'excellence qui est avec vous. Pour,
rapidement, Claude, oui.
Parce que je sens qu'il est vraiment au front. J'ai apprécié sa façon de travailler, il est dynamique malheureusement. C'est dans un gouvernement dont nous connaissons vous-même la durée, c'est une courte durée. J'aurais aimé qu'il revienne cette fois-là, quand on aura fait les élections, dans un gouvernement qui aura une longue durée. Avec ces réformes, je crois que ça peut booster les choses. Et je voulais aussi faire remarquer que l'année, bien sûr, elle vient de se terminer. Et nous saluons le nombre de cadres que l'université ou les universités ont déversé sur le marché d'emploi. Mais malheureusement, plus ou moins 80% de ceux qui obtiennent leur diplôme sont soit sous-employés et la plupart n'ont même pas d'emploi, ils deviennent des cambistes et dans des cabines publiques et nous déplorons cela. Et je crois qu'il faut qu'il y ait aussi une politique de prise en charge de toutes les universités, si on pouvait ne fût-ce que prendre dans chaque faculté, un couverture de l'université, Hein, ce qui distingue, on essaie un peu de créer des emplois par rapport à ça.
Merci. Et merci beaucoup,
aspect,
Claude. Oui, rapidement, Claude.
L'autre aspect, c'est par rapport aux lamentations. Hein, lamentations des professeurs qui parlent en termes de grève, tout ça avec l'État. Moi, je crois que les profs doivent un peu cesser de se lamenter, d'autant plus que ce sont eux qui sont des conseillers dans des grands ministères, ce sont eux qui sont des législateurs. Et ils disent eux-mêmes, après Dieu, ce sont les profs. Ce sont eux qui doivent faire tout pour que qui ne puissent pas se plaindre. Car ils se plaignent, en tout cas, ça n'a pas de rapport avec ceux qui disent eux-mêmes qu'ils sont après Dieu, c'est eux. Et je parle encore de l'université de Lubumbashi ici. Les étudiants payent les frais académiques toujours en dollars, alors que l'université appartient à l'État. Mm-hmm. Pourquoi ne pas payer ces frais-là en francs
congolais? Merci beaucoup, Claude. Vous avez souhaité, par rapport aux menaces des grèves, que les professeurs qui sont eux-mêmes conseillers, qui sont même dans la gestion des fois de la chose publique, alors ils pouvaient se battre pour que tout s'améliore. On revient à vous, Monsieur le ministre Steven Bikayi. On a suivi les uns et les autres. En un mot, pour conclure cet échange qui n'est pas, je crois, c'est pas la dernière émission, comme il y a l'année 2017-2018 qui s'ouvre, on pourra voir comment débattre encore par rapport aux défis à relever. On vous écoute.
D'abord, ça m'étonne qu'à Kananga, il y a encore des universités qui n'ont pas fermé, qui n'ont pas clôturé en académique. Et j'aurais pu demander une dérogation. Je vais vérifier pour savoir ce qu'on doit faire. Parce que je suis strict sur la question de fermeture d'un académique, mais aussi de l'ouverture. Je crois qu'ils auront donné certaines explications. Il y a l'autre qui a parlé de chômeurs. Et bien, c'est vrai, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a le chômeur parce que d'abord, il n'y a pas assez d'emplois, mais aussi il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes non mérités. Il y a des gens qui sont incapables de passer de l'embauche et réussir. Mais sur le chômage, je crois qu'il faudrait qu'on ait une émission entière sur le chômage. On a des idées à donner pour permettre à ce que les gens qui finissent ne soient pas seulement demandeurs d'emploi, mais qu'ils soient à mesure de créer des emplois. Mais il faut avoir des plans d'investissement donc qui pourraient aider les jeunes qui ont des projets à pouvoir les financer. Mais là, c'est toute une émission que nous pourrons avoir pour la prochaine fois. Il y a un qui a parlé des antivaleurs. Oui, antivaleurs, c'est pas seulement l'université, c'est dans toutes nos sociétés, dans tous les domaines. Et tous nous devons faire un effort pour le combattre. Mais au niveau de l'ESU, en tout cas, j'ai mis tout en place pour pouvoir affronter les antivaleurs, y mettre fin. Exemple, demander aux étudiants de payer 500 francs pour les TP, 1000 francs pour l'interrogation, faire des listes de séquences chez les syllabus. Ce sont les antivaleurs, en tout cas, qu'on doit y mettre fin. Et j'ai déjà interdit qu'on ne fasse plus des listes pour les syllabus et même pas payer encore l'argent pour les TP. Mais pour que moi, j'ai réagi, je sanctionne, je dois être informé. Il faut que tout le monde puisse collaborer avec le ministère pour nous aider à savoir où est-ce qu'il y a des antivaleurs qu'on doit combattre.
Merci beaucoup, Monsieur Steve Mbikayi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux, mais le débat se poursuit sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Allô? Mais ils ne répondent pas?
Merci à Paul Badianyama qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé et coordonné par J.R. Lungembo. Piro et Lamine, je vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve le lundi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais l'émission est sur www.radiotapi.net, mais aussi en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Merci et au revoir.